La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Pas facile d'animer la matinale de 19h deux soirs de suite. Est-ce que vous vous rendez compte? La matinale, quel monument. Matinale, toi qui passes à 19h du lundi au jeudi sur les ondes du 93.9 FM, est-ce qu'un jour, un jour seulement, j'arriverai à ta petite cheville? Monument grandiloquent, autant que fille en mouvement, matinale, toi qui me permets et qui permet à d'autres de faire leur premier pas en radio. Tu nous prends par la main, non, plutôt tu nous prends par le bras et tu nous jettes de toutes tes forces dans le grand vide intersidéral du direct. Et c'est surtout une belle aventure avec des gens passionnés qui travaillent d'arrache-pied pour vous faire tous les soirs ce petit cadeau de liberté et d'engagement, la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Et non, pas celle d'Amiens, pas celle de Tours, de Toulouse, de Clermont, de Grenoble, de Caen ou de Brest. Et oui, parce que les Radio Campus, c'est partout en France. Je le sais maintenant que j'ai rencontré les autres bénévoles des Radio Campus de France et de Navarre au Festival Longueur d'onde à Brest où nous étions il y a 2 semaines. Alors merci Maïwenn, merci Alice, merci Philippe, Jean, Electra, Lou. Merci à tous, à toute l'équipe de Radio Campus Paris qui permet cette petite merveille de liberté qui crépite tous les soirs à vos oreilles. De vous bercer par de la musique, des voix, des poèmes, des paroles engagées, des chercheurs, des professeurs, des conteurs, des députés, comme ce soir par exemple, vous allez le voir. Chère matinale de 19h, toi qui nous permets d'entendre aussi la voix des invisibles et de ceux qu'on n'entend pas assez souvent, qui me permet de tenter de vivre, de se tromper, de se former, d'expérimenter et parfois souvent d'exceller dans son art, d'exceller dans son ton, de poser la bonne question au bon moment et de mettre du sourire dans sa voix, d'emporter les gens avec soi, avec nous, avec eux, pour vous faire vivre de beaux moments de radio et surtout des beaux moments de radio libre. Liberté, j'écris ton nom, à quoi ça sert de vivre dans un pays libre si on ne se saisit pas de la liberté pour informer, disséquer, inventer, créer, partager? À quoi ça sert alors qu'en Russie, en Biélorussie, en Corée du Nord ou ailleurs, on ne peut pas prononcer ces mots, ces noms, on ne peut pas créer librement, informer librement, documenter librement? Ode à la liberté ce soir, à l'audace et à la créativité de cette radio qui ravit vos oreilles depuis plus de 25 ans. Et tout de suite, le sommaire de cette matinale. Au programme ce soir, dans le Zoom, nous recevrons Arthur Blanquin qui nous présentera la comédie musicale Is la ville engloutie, interviewée par Sam. Une chronique par Francesca sur les aidants en entreprise, des invisibles qu'on oublie trop. Fabien sera au Flash Info et à la chronique, mais sans plus tarder, passons au grand entretien de notre matinale qui ouvre traditionnellement l'émission. Nous recevons ce soir la députée Gabrielle Catala qui est déjà installée avec nous en studio pour évoquer la détérioration des conditions d'accueil et d'enseignement des élèves du Val d'Oise.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
C'est toi qui vas interviewer Gabrielle Catala qui est avec nous en studio ce soir. Bonsoir Gabrielle.
Bonsoir.
Vous êtes donc députée de la 6e circonscription du Val d'Oise.
Tout à fait.
Et du groupe donc La France Insoumise pour le Nouveau Front Populaire. Hélène, c'est à toi pour l'interview.
La moitié des enseignants d'une école absent, des classes de 36 élèves, des enfants qui restent chez eux une partie de la semaine faute d'enseignants. Non, ce n'est pas la description du système éducatif de Haïti, où vous avez travaillé, Gabrielle Catala, mais l'état de l'enseignement secondaire dans le Val d'Oise. Vous êtes en effet aujourd'hui députée de la France Insoumise de la 6e circonscription du Val d'Oise et vous venez de tirer la sonnette d'alarme sur cette situation. Ça va si mal dans votre circonscription ?
Oui, ça va très mal dans ma circonscription et dans le département en totalité, puisque là on vient de nous annoncer 60 classes de plus qui fermeraient à la rentrée septembre 2025, alors qu'il manque déjà actuellement 250 classes où il n'y a pas d'enseignants dans le Val d'Oise. Et quand on parle du Val d'Oise, on ne parle même pas des pires situations, puisqu'en Seine-Saint-Denis, où la situation est encore pire, c'est 105 classes qui vont fermer à la rentrée prochaine, alors même que la situation est encore plus catastrophique. Moi, je suis élue dans une circonscription où il y a à la fois des villes relativement privilégiées, comme Enghien-les-Bains, qui n'est pas une ville populaire, et des villes beaucoup plus populaires comme Montmagny, Saint-Gratien, Sannois. et même à Enghien-les-Bains, où on s'imagine pas qu'une telle situation pourrait se produire. Il y a une école actuellement où la moitié des enseignants ne sont pas là, c'est une école qui s'appelle Les Signes, et où il y a deux classes où la mairie a sollicité des services civiques pour remplacer les enseignants. Il y a une autre classe où c'est une ATSEM qui fait classe à la place des enseignantes, et c'est des enseignantes qui ne sont pas là parce que soit elles sont en congé maternité et n'ont pas été remplacées, soit elles sont en arrêt maladie. Les arrêts maladie se multiplient dans l'éducation nationale puisqu'il y a un mal-être, et surtout ils sont d'autant plus visibles puisqu'autrefois il y avait ce qu'on appelait les brigades de remplaçants, et les remplaçants étaient tout de suite trouvés. Or ce n'est plus le cas aujourd'hui. Moi par exemple, je suis née dans les années 90, donc j'étais à l'école primaire fin années 90, début d'année 2000. Je n'ai aucun souvenir d'un enseignant absent parce qu'il aurait été en congé parental ou en arrêt maladie. Et pareil au collège, je suis allée dans un collège de ZEP, je n'ai aucun souvenir d'avoir manqué soit des matières dites secondaires comme la techno, les arts plastiques ou la musique, soit des matières d'autant plus importantes comme le français. Là, il y a d'autres lieux dans ma circonscription où les élèves n'ont pas d'enseignante les trois quarts de la semaine, donc soit ils sont renvoyés dans d'autres classes et ça fait des classes d'autant plus surchargées, ce qui forcément atteint leurs apprentissages et facilite le burn-out chez les enseignantes qui sont déjà à bout, et d'autres cas où on enjoint les parents à reprendre les enfants chez eux. Or, les parents travaillent, ce n'est pas leur rôle de garder les enfants et de leur faire des enseignements. C'est un travail c'est la pédagogie, c'est un travail professionnel, donc n'importe qui ne peut pas faire ça. Donc la situation est alarmante, et c'est pour ça que nous, on envoie régulièrement des courriers au recteur, au DAZEN, à l'inspection, à la ministre. Mais en réalité, le fait qu'on envoie énormément de courriers, mais que personne n'y répond, puisqu'il n'y a pas d'enseignants. Les profs, quand on regarde par exemple le dernier concours là dans l'Académie de Versailles, puisque
va y revenir peut-être après en parlant du niveau national, mais oui. ce que vous racontez c'est assez stupéfiant, des élèves qui n'ont pas cours et rentrent chez eux deux jours par semaine. Oui. Est-ce que ça touche tous les niveaux, de la maternelle au lycée, où il y a vraiment des lieux partout?
Oui, ça touche tous les niveaux. Là, il y avait encore un article hier dans Le Parisien sur une école à Sannois qui s'appelle l'Orangerie, où la moitié des enseignantes de maternelle ne sont pas là. Donc il y a 7 classes dans cette école. Et dans 4 classes, il n'y a plus d'enseignantes puisqu'elles sont toutes en arrêt maladie. Depuis la reprise en janvier, elles ne sont pas remplacées.
Donc vous voulez dire que dans cette école, les élèves arrivent et il manque un enseignant sur deux.
Et il n'y a personne, donc ils sont mis dans d'autres classes. Sachant que normalement, la moyenne européenne, on devrait être à 19 élèves par classe. Donc il y a des classes où ils sont plus de 30 et en plus, ce n'est pas les mêmes niveaux. Où ils sont invités à rentrer chez eux. Les parents sont invités à les reprendre. Donc pour éviter un scandale, la mairie a finalement renoncé à appeler les parents à reprendre les enfants. Mais ils sont dispatchés dans différentes classes, ce qui nuit aux apprentissages des autres et ce qui ne correspond pas à leur niveau. C'est la même chose au collège. J'ai des collèges dans ma circonscription où il n'y a pas français, qui est pourtant une matière extrêmement importante, où les enfants n'ont par exemple jamais eu techno, jamais eu art plastique, jamais eu musique, qui sont des matières importantes pour certains élèves qui s'épanouissent à travers ces matières. Et pareil au lycée, des matières qui pourtant sont importantes pour le baccalauréat, ou en troisième, à l'inverse au collège, qui sont importantes pour le brevet, où aucun cours n'est pourvu pendant toute l'année.
Alors l'éducation nationale, c'est pas votre thématique particulière, donc pourquoi vous vous emparez de ce sujet? Est-ce que parce que les habitants vous sollicitent là-dessus? Est-ce que c'est ça qui a attiré votre attention?
Oui, parce que c'est un des sujets les plus importants. Moi, je reçois énormément de mails tous les jours. Donc là, par exemple, je reçois énormément de mails sur les auto-entrepreneurs qui sont pas contents parce que le budget de François Bayrou va les soumettre à la TVA avec un seuil beaucoup plus bas qu'il n'était prévu. Donc là, on reçoit des dizaines de mails d'auto-entrepreneurs toutes les heures. Mais le deuxième plus grand nombre de mails que je reçois, c'est sur les parents qui se plaignent de ne pas avoir d'enseignants, ou sur les enseignants eux-mêmes qui souffrent. Et souvent, les parents et les enseignants sont liés dans la bataille pour écrire au rectorat, à l'inspection. Mais c'est d'autant plus, c'est mieux pour eux que ce soit des députés qui écrivent, parce que quand ce sont des députés qui écrivent, forcément l'administration répond plus favorablement, en tout cas plus rapidement, et en tout cas elle apporte une réponse. Les parents font des pétitions, sont déjà mobilisés devant les écoles. En tout cas, c'est un sujet qui est très important et qui touche un maximum de gens, parce que quand on regarde en effet les sujets qui intéressent les gens, ce n'est pas l'immigration, l'insécurité ou je ne sais quoi, mais c'est l'école pour leurs enfants, les hôpitaux et le logement. C'est en réalité les trois préoccupations réelles, et bien sûr le pouvoir d'achat, donc disons les quatre préoccupations réelles qui touchent les Français et pour lesquelles ils nous écrivent.
Et alors, est-ce que vous pensez justement que délaisser l'enseignement, l'éducation, et les gens se retrouvent comme ça avec des enfants dont ils voient bien qu'ils ratent une partie de leur scolarité faute de moyens, est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu politique, notamment par rapport au vote RN ?
Évidemment, c'est un enjeu politique, pas par rapport forcément au vote RN, mais c'est un sujet qui est très préoccupant depuis des années, et les budgets successivement votés plongent l'éducation nationale dans le rouge, enfin dans le démantèle progressivement l'éducation nationale. Les gens les plus fortunés peuvent donc se tourner vers le privé, d'autres familles ne le peuvent pas. Et l'éducation nationale, en réalité, elle n'attire plus. On va répondre, par exemple, Monsieur Bayrou va répondre que c'est un problème d'attractivité. Mais qui est responsable de l'absence d'attractivité ? Il a été lui-même ministre de l'Éducation nationale dans les années 90. Donc là, quand on regarde le salaire des enseignants, par exemple, les enseignants gagnent 1,2 fois le SMIC aujourd'hui, alors que dans les années 90, ils gagnaient 2,2 fois le SMIC. Leur pouvoir d'achat a donc considérablement baissé, le métier n'est plus valorisé, le point d'indice est gelé depuis des années. C'est pour ça que nous, par exemple, on propose d'augmenter de 15% tout de suite les enseignants avec une politique de justice fiscale totalement différente pour que le métier soit d'autant plus attractif et que les postes soient pourvus. Là, pour l'Académie de Versailles, au dernier concours, rien que pour le premier degré, donc pour les professeurs des écoles, il y avait 1230 postes à pourvoir et seulement 845 candidats ont été admis. Donc chaque année, il y a à la fois des postes non pourvus et des postes supprimés.
Et donc, quand vous alertez le rectorat, comme vous l'avez fait, pour l'Académie de Versailles, dont relève votre circonscription, qu'est-ce qu'on vous répond ?
Bon, on va me répondre que l'Éducation nationale met tout en œuvre, enfin, des courriers copier-coller qu'on envoie, j'imagine, à tous les autres députés, que l'Éducation nationale met tout en œuvre, qu'ils vont faire en sorte de trouver un remplaçant le plus vite possible. Mais il faut se dire que quand un remplaçant est trouvé pour un établissement, ça veut dire que c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques, donc ça veut dire qu'il y en a un en moins dans un autre. Et donc, comme il n'y a pas d'enseignant, l'inspectrice, parce que quand on écrit au recteur, en réalité, c'est l'inspectrice du secteur local qui prépare la réponse. Donc, je l'ai croisée par hasard la semaine dernière, et elle m'a avoué, elle m'a dit « Ah oui, je prépare votre réponse, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a pas d'enseignant, donc il n'y aura toujours personne, et terminé. » Ou alors, ils vont trouver des retraités, peut-être qu'ils vont se porter volontaires, ils vont trouver, comme c'est le cas là dans une école, un service civique pas du tout formé qui va pallier à ça. Et pour la rentrée prochaine, j'imagine qu'ils vont compenser par des contractuels qui sont formés pendant à peine 48 heures avant la rentrée scolaire, parfois ils ne le font même pas, donc la session de rattrapage de formation est à la Toussaint, et s'ils le font toujours pas, ils ne sont pas formés, ils sont mis devant une classe, et la plupart en réalité démissionnent, ou ne sont pas à la hauteur, et je leur jette pas la pierre, parce que c'est pas leur faute, ils ne sont pas formés, ils sont pas faits pour ça, mettent fin à leur activité d'enseignant contractuel après 1 an, 2 ans, parce qu'ils n'en peuvent plus, et c'est pas du tout le métier qu'ils se sont imaginés.
Alors, sauf erreur de ma part, l'État, je crois, a été condamné en 2024, oui. Justement dans le Val d'Oise, oui. Pour non-replacement de poste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui a lancé cette procédure ?
Il y avait un certain nombre de syndicats qui avaient lancé cette procédure, mais en réalité, l'État est condamné, mais il ne s'est rien passé. Et là, il pourrait de nouveau être condamné, puisque la situation, je vous le disais, à la rentrée, il y aura 60 classes encore supprimées, donc la situation sera encore pire. Et c'est la même chose, j'imagine, dans l'État pourrait être finalement condamné dans de nombreux départements. Il pourrait être condamné aussi à Paris, il pourrait être condamné en Seine-Saint-Denis. Ça se trouve, c'est déjà le cas. Ces condamnations ne changent absolument rien au problème. Et là, vous avez dû suivre ces débats sur le budget avec la suppression des 4000 postes qui ont cristallisé les débats sur le budget de M. Barnier puis celui de M. Bayrou. M. Bayrou dit qu'il a fait une concession puisque les 4000 postes sont revenus dans le budget. En réalité, la ligne budgétaire qui permettait de réinstaurer la création de ces 4000 postes et donc de rester à un solde de postes nul et remis, c'était 50 millions. Mais 52 millions ont été supprimés pour former ces personnes. Donc on va recruter soi-disant 4000 personnes, mais il n'y a plus 1 euro dans le budget pour les former. De la même manière que dans le budget de l'année dernière, le budget qui a été voté fin 2023 et qui s'est appliqué en 2024, il y avait certes des postes, mais ensuite, au moment des concours, il n'y avait pas assez de candidats, et donc les postes n'ont pas été pourvus, ils ont été supprimés, rayés de la carte, et malgré le vote de ces postes dans le budget, en février, il y a ce qu'on appelle un décret d'annulation qui avait été publié avec 10 milliards en moins pour les services publics, et le service public le plus touché était l'éducation nationale, et donc des postes étaient supprimés dès février. Donc là, il peut se passer exactement la même chose à M. Bayrou, c'est-à-dire qu'il a soi-disant rétabli les postes, il peut faire à tout moment un décret allant jusqu'à 10 milliards d'annulation de crédits sur le budget de l'État, et ensuite, quand les crédits seront ouverts, quand les postes seront ouverts pour le concours, il peut à tout moment dire qu'il n'y avait pas assez de candidats et que donc des postes sont supprimés. Et l'année dernière, on était à 3600 postes non pourvus dans le premier degré et le second degré, sans compter les suppressions de postes en plus.
Donc les 4000 postes annoncés, en fait, il ne faut pas trop compter dessus.
Oui, voilà, c'est du vent. Le budget tel qu'il est rédigé ne l'engage à rien.
Est-ce que sur ces questions, vous n'arrivez pas à avoir un accord au sein du Parlement avec d'autres députés? C'est quand même un problème
alors
qui touche tout le monde.
Justement, les 4000 postes, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas besoin de prétendue négociation ou de pression quelconque, puisque lorsque le vote a été fait à l'Assemblée nationale, en commission à l'automne, en commission des finances, il y a eu un vote sur le budget de l'éducation, sur ces 4000 postes. Ces 4000 postes ont été rétablis. Comme on avait fait passer un certain nombre d'amendements pour lesquels il y avait une majorité à l'Assemblée, on avait fait passer la titularisation des AESH. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'anniversaire de la loi de 2005 qui dit que les personnes handicapées ont droit à l'accès. Et dans cette loi, il y avait tout un volet sur l'accès des personnes handicapées à l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'AESH. Elles sont payées à peine 1000 euros par mois. Ce n'est pas du tout attractif. Et donc, on avait fait passer toutes ces choses-là. On avait fait passer l'augmentation du salaire des enseignants, la cantine gratuite, enfin, que tout ce qui correspondait à notre programme. Et finalement, comme le budget a été ensuite rejeté par le Rassemblement national et par les macronistes, il est revenu tel que initialement déposé au Sénat. Et c'est ça qui a permis ensuite de supprimer tout ce qu'on avait fait voter et d'en venir à une commission mixte paritaire. Bon, c'est un peu du jargon parlementaire, pardon, mais en revenir avec des députés et des sénateurs qui se mettent d'accord sur un budget d'austérité pour l'éducation où là, finalement, malgré les soi-disant concessions, il y a 200 millions en moins pour l'école sur l'année 2025 par rapport à 2024, sans compter les annulations qui peuvent être faites après.
J'écoutais justement aujourd'hui à la radio que les AESH ont beaucoup de mal et que les personnes en position de handicap ne peuvent pas être aidées à 100%, même celles qui le nécessitent. Donc cet entretien est toujours ponctué d'une musique. On arrive tout à l'heure pour la deuxième partie de l'entretien. On écoute d'abord une musique d'Éloi. Ce n'est pas bien mérité, en tout cas. Bien mérité. Éloi. Bien mérité, pas comme les profs, pas comme les ATSEM et pas comme tout le personnel de l'éducation nationale qui n'a pas les moyens de bien travailler. C'était bien mérité d'Éloi, Éloi qui est donc musicienne, chanteuse, autrice, compositrice parisienne.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et nous revenons pour la deuxième partie de notre entretien. Nous sommes toujours avec Gabriel Catala, qui est donc député de la 6e circonscription du Val d'Oise et interviewé par Hélène, qui est avec nous au plateau. Nous parlons de la détérioration des conditions d'accueil et d'enseignement des élèves du Val d'Oise. Et puis, je vous laisse reprendre tranquillement l'interview.
Oui, Gabriel Catala, on parlait donc des problèmes de l'éducation nationale, notamment dans le Val d'Oise, puisque vous êtes député du Val d'Oise. Mais c'est un problème qui n'est pas seulement un problème de ce département, même si l'Académie de Versailles est une des plus en difficulté pour le recrutement, avec la Guyane, Mayotte et Créteil, un triste palmarès. Au niveau national, on l'a dit, on parle possiblement de moins de 4000 postes possibles. Si je me faisais l'avocat du diable, je vous dirais oui, mais on raconte qu'il y aura moins 500 000 élèves entre 2022 et 2027. Est-ce que ça justifie une baisse du nombre d'enseignants ?
Non, ça ne justifie pas une baisse d'enseignants puisque les classes sont déjà surchargées. Donc nous, le but est de revenir à la moyenne européenne à 19 élèves par classe, quel que soit le niveau et avec des seuils encore plus bas pour les classes spécialisées et pour les élèves en difficulté. Donc là, actuellement, vu la moyenne d'élèves par classe, quel que soit en primaire, en école élémentaire, au collège, au lycée, moi, par exemple, dans la plupart des écoles que je suis allée voir dans ma circonscription, il y a en moyenne 26 ou 27 élèves par classe, alors qu'il devrait être 19. Je crois que c'est un mauvais argument pour justifier des suppressions de postes, sachant que quand on regarde le triste bilan d'Emmanuel Macron, depuis 2017, le chiffre est vertigineux. Il y a plus de 2200 écoles qui ont disparu dans notre pays. Et chaque année, c'est plus de 2000 classes qui disparaissent. La rentrée dernière, c'était 2227. Et la rentrée d'avant, je crois que c'était 2223. Bref, on est dans une moyenne continue de classes qui disparaissent. Et depuis 2017, on a déjà eu 8865 postes d'enseignants supprimés, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré. Donc presque 9000 postes d'enseignants qui ont disparu, sans compter les postes non pourvus. Donc pareil, on est sur un chiffre vertigineux et donc il est faux de dire qu'il faut continuer à supprimer des postes pour se conformer à la démographie, puisqu'il faudrait d'abord rattraper tout ce qui a été supprimé depuis 2017 et même avant, puisque rappelez-vous, le quinquennat Hollande, il y avait cette promesse dans le programme de 2012 de dire 60 000 postes dans l'éducation, il y avait des contrats aidés, etc. Ensuite, certains contrats aidés ont été supprimés par Emmanuel Macron et M. Hollande n'est pas arrivé à sa promesse de 60 000 postes dans l'éducation. Donc il faut même rattraper le retard pris depuis le quinquennat Sarkozy en réalité.
Alors la question c'est on fait comment ? En 2030, la DARES, donc l'organisme d'études du ministère du Travail, dit qu'un tiers des enseignants seront à la retraite. En 2030, un tiers des enseignants seront à la retraite, donc la situation ne va pas s'améliorer. Alors quoi faire ? Prof, c'est le plus beau métier du monde, mais vous en avez parlé un petit peu auparavant. Il y a une désaffection pour ce métier. C'est quoi les réponses ? Est-ce qu'on peut reprendre ce que vous avez dit et peut-être compléter ? Comment est-ce qu'on peut faire pour attirer les profs en supposant qu'on a le budget pour les payer ?
Alors on peut avoir le budget pour payer les profs, c'est une question de volonté politique. Par exemple, nous dans le budget à l'automne, dans le débat, nous avions voté pour taxer les super profits, ça rapporte 10 milliards. Nous avions voté pour taxer les 142 plus grandes fortunes de ce pays sur 2% de leur patrimoine, ça rapporte 17 milliards. D'ailleurs, il y aura de nouveau un débat à l'Assemblée nationale la semaine prochaine sur le sujet. Nous avions voté pour taxer les rachats d'actions. Nous avions proposé de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune avec un volet climatique, ce qui rapporterait 15 milliards. Ça a été rejeté par le RN et par les macronistes. Bref, nous avons apporté en tout, avec toutes les taxes que nous avions créées, 60 milliards de recettes à l'État, ce qui est largement suffisant pour augmenter les enseignants et les fonctionnaires en général, pour dégeler le point d'indice. Donc moi, je pense que ça commence par ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attirer des gens à Bac plus 5 quand en début de carrière, ils gagnent moins de 2000 euros, alors que c'est un métier quand même extrêmement fatigant, difficile, où les parents prennent de plus en plus de place et font de plus en plus de critiques, en plus des critiques qu'on peut avoir de la société en général qui perçoit toujours les enseignants d'une manière négative en disant qu'ils font ça pour avoir des vacances d'été. Et donc je pense que ça passe par ça. Quand on regarde certains pays du Nordique comme la Finlande où certains enseignants sont rémunérés jusqu'à 5000 euros net, on se dit qu'il y a un problème dans notre pays où la rémunération est très basse et en dessous de la moyenne de l'OCDE. Ensuite, il faut mieux les former, plus leur donner confiance, c'est-à-dire reprendre la formation qui existait il y a des années dans les IUFM, etc., pour que les enseignants soient mieux formés, qu'ils soient plus à l'aise dans leur métier, et faire en sorte ensuite, ça encouragerait des mesures positives en cascade, puisque plus d'enseignants égale moins d'élèves par classe, égale de meilleures conditions de travail, et après, au-delà du salaire, il y a tout ce qui est new public management. Aujourd'hui, les enseignants sont épiés, ils sont évalués, il y a une moindre liberté pédagogique, leur capacité d'enseigner est remise en cause et c'est ça qu'il faut changer.
Est-ce que vous seriez aussi favorable à une transformation comme dans certains pays où les enseignants ne sont pas seulement anciens dans leur classe mais sont vraiment présents dans l'enceinte éducative pour des tâches diverses, éducatives au sens large ?
Non, je ne suis pas favorable parce que je crois qu'il faut faire confiance aux personnes. Les enseignants ont des heures à faire dans leur classe et ensuite sont libres de s'organiser, de préparer comme ils le veulent. Justement, il y a de plus en plus d'obligations de présence avec des réunions au milieu de la journée, une obligation de rester dans l'établissement, comme si on les soupçonnait de ne pas faire d'heures et donc de ne pas mériter leur salaire mensuel. Ça encourage la suspicion et la défiance vis-à-vis du métier et c'est pas du tout souhaitable.
D'accord. Donc on voit ces difficultés de l'enseignement public. On sait que l'enseignement privé est souvent soutenu par certains. Est-ce que vous pensez qu'il y a un choix quand même volontaire de faire basculer l'enseignement plutôt du côté du privé ? Et je ne sais pas, imaginons tout ce qui est possible vers des statuts d'auto-entrepreneurs, pourquoi pas, au point où on en est ?
Oui, évidemment, il y a une volonté depuis 2017 de privatisation des services publics. La dynamique est la même à l'hôpital. On va précariser l'hôpital public, ensuite on va s'étonner que ça ne fonctionne plus, que les gens n'ont plus confiance, qu'ils vont vers le privé. Ensuite on va dire, ah regardez, l'hôpital public ne fonctionne plus, donc autant donner de l'argent des cliniques privées. Donc là, c'est exactement la même chose qui est à l'œuvre avec des établissements privés qui ne sont pas contrôlés, même quand ils sont sous contrat avec l'éducation nationale. On le voit pour Stanislas. Stanislas a été mis en cause dans des très graves affaires d'homophobie, de violence, etc. Le contrat avec l'État n'a pas été rompu. Madame Pécresse continue à financer cet établissement très élitiste. Dans le même temps, des lycées musulmans ont vu leur contrat rompu pour des faits moins grave et pour des preuves moins accablantes relayées par Mediapart. Et donc si les contrats avec les lycées musulmans sont rompus, le contrat avec le lycée Stanislas devrait être rompu. Et nous, on est pour que l'argent public aille à l'école publique, mais que pour les personnes qui font le choix d'aller vers l'école privée, ce soit à leurs frais et ce ne soit pas subventionné par de l'argent public. D'autant plus que j'ai un collègue député du Val d'Oise, monsieur Paul Vanier, qui a mené une mission d'information sur l'école privée, et il s'est avéré qu'il est impossible que l'État ne sait même pas combien coûte l'école privée chaque année. Sur un budget annuel de 60 milliards de l'éducation nationale, c'est en gros le budget total, qui rémunère les enseignants, qui finance la rénovation des écoles, les fournitures lorsque c'est gratuit, etc. Ce budget-là, 10 milliards, entre 10 et 12 milliards sont pour l'école privée, sans qu'on sache exactement quel est le montant total, puisque quand on regarde par exemple le salaire des enseignants, le prorata des enseignants qui sont payés par l'argent public mais qui enseignent dans le privé n'est même pas connu. Et on voit aujourd'hui que l'école privée devrait être davantage surveillée, non seulement avec Stanislas, mais avec le scandale de l'école de Bétaram,
où
nous avons cet après-midi posé une question au gouvernement sur le sujet, puisqu'il y avait des dizaines de plaintes pour violences physiques, mais aussi pour viols sur mineurs, et M. Bayrou a nié, et a fait comme s'il ne savait pas alors qu'il était au courant lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Donc il a menti cet après-midi et j'espère que la presse qui sait faire ça, qui sort un premier volet, attend que la personne mente et ensuite sort un deuxième volet, continuera à sortir des révélations là-dessus.
Merci beaucoup. Et je voudrais terminer sur une petite note plutôt positive. Vous accueillez de nombreuses classes à l'Assemblée nationale, plus d'une quinzaine depuis la rentrée.
Oui.
Est-ce que vous sentez un intérêt des élèves pour la représentation nationale et le travail politique ? Et que diriez-vous à ceux qui ont envie de s'engager ?
Oui, alors il y a un grand intérêt, non seulement pour les élèves, mais pour les enseignantes. Et puis c'est très bien, parce que pour les gens, pour les jeunes, surtout, c'est très flou. Ils ne savent pas faire la différence entre députés, sénateurs, maires, etc. Donc ça permet de réexpliquer comment fonctionne la démocratie. Et j'ai envie, à chaque fois que j'interviens ou que à l'Assemblée ou que je vais dans les écoles aussi pour faire des... Parce qu'on est invité par les enseignants quand on est député à faire des sortes de cours d'éducation civique sur notre rôle auprès d'élèves, quel que soit le niveau. Je leur dis qu'il ne faut pas s'autocensurer, que moi, il n'y avait rien qui me destinait à la politique. Mon père faisait du vin, ma mère est infirmière, donc mes parents ne sont même pas syndiqués, ne sont jamais engagés dans un parti politique. Et donc, il ne faut pas s'autocensurer, il ne faut pas penser que c'est pour les autres et que si ça les intéresse, il faut s'engager, que ce soit par l'engagement associatif ou par l'engagement politique, mais que c'est fait pour eux aussi.
Merci beaucoup, Gabriel Catala, d'avoir été avec nous ce soir. Donc, je rappelle que vous êtes député de la 6e circonscription du Val d'Oise. Et merci à Hélène pour avoir mené cette interview. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, place au Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour. 4 jours après le décès tragique de Louise, 11 ans dans l'Essonne, l'enquête s'accélère. En effet, l'ADN retrouvé sur les mains de Louise, tué avec un objet tranchant, a matché avec celui du jeune homme âgé de 23 ans, placé en garde à vue lundi soir à 20h. Sa garde à vue est prolongée, ainsi que celle de 3 de ses proches, sa mère, son père et sa petite amie. Le principal suspect avait été interpellé après avoir été reconnu sur les visites d'images de vidéosurveillance par des témoins. Elles montraient un homme vêtu d'une doudoune noire et d'une casquette suivant Louise sur le chemin du retour de son collège. Cet homme, décrit comme addict aux jeux vidéo, semble avoir le bon profil mais ne se montrerait pas très bavard. Les policiers ont néanmoins relevé des incohérences dans les déclarations du suspect, déjà connu de leur service pour des affaires de droit commun. Et puis, une surveillance renforcée pour prévenir la réitération d'actes de violence. La préfecture de Seine-Saint-Denis a annoncé ce mardi qu'une vingtaine de collèges et lycées du département francilien sont placés cette semaine sous la surveillance de 100 fonctionnaires de police. Les agressions ont récemment été très médiatisées dans le département, tels les coups portés à un élève de 3e âgé de 15 ans aux abords de son collège Angela Davis à Bobigny. Dans ce dossier, c'est un surveillant du collège âgé de 22 ans et son frère de 17 ans qui sont mis en cause. Le mineur aurait agressé l'adolescent suite à la découverte dans les toilettes du collège d'un tag insultant visant son grand frère selon le parquet. Le jeune frère ayant été mis en examen vendredi du chef de violence ayant entraîné une ITT, n'excédant pas 8 jours, aggravé par 3 circonstances, le surveillant est poursuivi pour complicité. Tous deux ont été placés sous contrôle judiciaire. Et puis rien ne va plus entre Xavier Niel et le patron de Tesla. L'homme d'affaires français pense en effet qu'Elon Musk est peut-être parfois un connard. Et l'homme le plus riche du monde a répondu en qualifiant le fondateur de Free de proxénète sur un réseau social lundi.
Merci beaucoup Fabien pour le Flash Info. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et on part en musique. C'est Charlotte Adigéry et Boris Poupoul, Blenda. Blenda. Blenda, c'est l'héroïne d'une légende populaire suédoise. Elle aurait pris la tête d'une armée composée de femmes et vaincu l'envahisseur danois alors que les hommes de sa région étaient partis à la guerre. Un peu une Athéna à elle toute seule. On a donc écouté Blenda de Charlotte Adigéry et Boris Pupul.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et c'est déjà l'heure de la chronique de Francesca qui va nous parler des aidants en entreprise, des invisibles qu'on oublie un peu trop.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors, une campagne nationale a été lancée aujourd'hui sur LinkedIn, hashtag aidants, parlons-en. Le 4 février dernier, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, nous avons rappelé combien cette maladie touche des millions de personnes. Mais derrière chaque patient, il y a souvent un proche aidant, un conjoint, un parent, un ami qui jongle entre ses responsabilités personnelles et professionnelles, souvent dans l'ombre. Aujourd'hui en France, on compte entre 8 millions et 11 millions d'aidants, dont 66% sont actifs. Cela signifie qu'un salarié sur 6 est aussi aidant. Être aidant, c'est aussi accompagner un proche en situation de handicap, un parent âgé en perte d'autonomie ou encore des proches en difficulté de santé. Ce rôle touche toutes les générations, tous les milieux. Et être aidant, c'est pas juste un rôle temporaire, je vous rappelle, c'est gérer des rendez-vous médicaux, des soins, des imprévus, tout en assurant ses responsabilités professionnelles. Cette situation peut générer donc fatigue, stress pour un employé ou risque de burn-out élevé. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que cette situation devient alarmante. Beaucoup d'aidants préfèrent ne pas en parler dans les entreprises par peur d'être perçus comme moins investis ou moins performants. Et il faut dire que tout le monde n'a pas forcément envie de raconter sa vie personnelle au travail, un lieu qui devient aussi un moment de répit pour certains. Mais ce silence est un piège. Il empêche d'identifier les besoins spécifiques et aussi des solutions adaptées pour les personnes qui aident. Donc, j'invite les aidants, j'invite aussi les entreprises à favoriser justement cette facilité d'échange et que chacun prenne ses responsabilités, notamment les entreprises, et faire en sorte que nos aidants parlent. Soutenir les aidants, c'est pas seulement un acte de solidarité, c'est aussi une responsabilité sociale. Alors concrètement, que peuvent faire les entreprises ? Former les managers à détecter les signes faibles à un salarié épuisé, moins concentré, en difficulté pour respecter certains délais ou absence répétée, c'est pas toujours un problème de motivation. Il peut s'agir d'une charge d'aidance, voire parfois une charge mentale. Donc sensibiliser les managers, instaurer une culture d'écoute et de confiance. Ensuite, si le aidant parle, s'il vous plaît, s'il s'est exprimé, il est primordial de mettre des actions réelles en place, comme par exemple adapter les conditions de travail. Donc accompagner l'aidant, c'est aussi reconnaître qu'un salarié, c'est un humain, avec ses forces, ses fragilités et, je rappelle, ses doubles responsabilités. Donc, je rappelle la campagne nationale qui a été lancée aujourd'hui sur LinkedIn, hashtag aidant, parlons-en.
Merci beaucoup Francesca, on parle pas assez des proches qui accompagnent, notamment dans le domaine aussi de la santé mentale, puisque tout ça ce sont des charges vraiment, vraiment partagées. Et tout de suite, nous passons au Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Et nous recevons ce soir Arthur Blanpin. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et tous.
Donc, vous venez nous présenter la comédie musicale Is la ville engloutie et vous êtes interviewée par Sam.
Bonsoir.
Bonsoir Sam.
Très contente d'accueillir quelqu'un pour du théâtre, puisque je fais moi-même du théâtre. Donc, tu fais partie de Odyssée musicale, donc la troupe qui a créé cette comédie musicale. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle dans cette troupe ?
Oui, tout à fait. Donc, l'Odyssée musicale, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2022, c'est ça, qui a déjà fait un premier spectacle en 2023. Et là, c'est la deuxième fois qu'il y a un spectacle original créé par cette association qui a été monté. Et donc, moi, je suis responsable de l'histoire. Donc, du coup, j'ai choisi avec des amis la légende sur laquelle on s'est appuyé. J'ai découpé la légende en plusieurs petits bouts pour en faire des scènes et ensuite dire dans quelle scène on va mettre telle et telle musique, tel et tel chant qui va parler de ça et ça. Et ensuite, j'ai animé le projet de construction du spectacle dans le sens spectacle écrit. Et une fois que ça, tout ça s'est écrit, j'ai passé le bébé à d'autres personnes qui sont occupées de mettre, de donner vie à ce spectacle écrit avec des artistes pour le jouer, l'interpréter, le mettre sur scène.
D'accord, d'accord. Et du coup, vous avez choisi une légende bretonne, c'est ça ?
Tout à fait.
Est-ce qu'on veut savoir quelle légende c'est ou est-ce que ça spoile trop la comédie musicale ?
Alors, la légende est dans le titre. Le spectacle s'appelle Is la ville engloutie. Et suivant les versions de la légende, ça s'appelle Is la ville engloutie de Is, la légende de la cité d'Is.
Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que je peux demander pourquoi vous avez choisi cette légende du coup ?
Donc la légende de base, elle parle de la décadence païenne et de Dieu qui veut détruire tout le monde.
Oula, oui, d'accord.
Voilà. mais au-delà de ça, derrière ça, il y a d'autres considérations qui sont un peu plus intéressantes. Il y a d'autres considérations qu'on est allé creuser et qu'on a renforcées au détriment de ce courroux divin. La croissance du superflu et la recherche de la futilité qui alourdit la ville d'Is et qui l'enfonce progressivement dans l'océan. Et c'est ça qu'on est allé plus mettre en avant, et donc d'où le titre « La ville engloutie » et qui est un clin d'œil à ce qu'on peut voir en ce moment dans certaines régions du monde ou plus largement avec le changement climatique.
Oui, justement, je voulais demander, donc vous avez fait ce spectacle, je suppose parce que vous aviez envie de faire ce spectacle à partir de cette légende et tout ça, mais je pense qu'il y a aussi une part du thème qui est dans l'urgence de faire de la représentation justement de ces catastrophes écologiques dans le spectacle.
C'est de la dystopie ?
Alors, est-ce que c'est de la dystopie ? Je sais pas. Je sais pas, on pourrait dire que ça se passe déjà en ce moment.
Oui. On tente.
Je suis pas sûr, pardon, d'avoir bien compris ta question.
Est-ce que donc vous avez choisi aussi cette légende pour le thème urgent par rapport à la situation mondiale actuelle ?
Oui, clairement, on voulait faire une fable écologique et donc on a trouvé une légende. Légendaire qui parle, en tout cas qui commence à parler du sujet, voilà, et donc on n'a pas détourné la légende mais on l'a réorienté vers des sujets plus actuels et moins vers les oppositions entre religions. C'est quelque chose qui reste quand même dans le spectacle parce que c'est quand même un des points de la légende, mais on a diminué cette partie là il n'y a plus qu'une ou deux scènes qui parlent de ça, en tout cas vraiment, pour augmenter les enjeux d'écologie. On parle un peu de climat, mais on parle aussi de la biodiversité dans le spectacle. Alors, c'est pas des mots qu'on nomme tels quels, parce que c'est des choses qui sont en sous-texte des enjeux. Mais effectivement, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on a choisi cette légende, c'est pour ça qu'on a fait ce spectacle, c'est pour ça qu'on a envie de le montrer, qu'on est tous très heureux d'avoir participé à ce projet.
Et alors, moi, j'ai une petite question, parce que je me demande du coup, donc c'est la ville engloutie. Donc, je me dis qu'à un moment, la ville va être engloutie. Donc, scénographiquement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce que ça donne sur scène ? Du coup, est-ce qu'il y a un moment où la scène est engloutie par de l'eau ?
Alors, nous sommes une association amateur, avec voilà. Un petit budget.
Non, je me demandais juste comment vous arrivez à...
Donc, on a réfléchi à ça. Le fait qu'on soit amateur, ça nous oblige à faire du système D et d'être inventif et ingénieux et ingénieuse, parce que du coup, ce sont des femmes à la scénographie qui sont occupées de ça. Du coup, on a trouvé une astuce pour effectivement représenter la vide qui s'enfonce progressivement. Venez voir le spectacle pour voir ce que ça donne. Voilà. Je me dirais si c'est convaincant. Mais c'est l'objet d'un grand tableau musical. Donc la musique aussi, parce que tu parles de la scéno, mais la musique aussi raconte cette histoire, représente les vagues, représente la force des ouragans, des tempêtes, etc. Donc c'est le cumul de ces pièces avec la chorégraphie par-dessus, etc., qui on espère, permettra de faire comprendre aux spectateurs et aux spectatrices que oui, la ville s'enfonce comme le titre du spectacle l'indique.
D'accord, oui. Je pensais bien que... Voilà. alors, j'avais une question.
Après, avec peu de décors, on peut faire beaucoup de choses. Un drap, ça peut être des vagues.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement des draps qui font des vagues.
Justement, parce que je pensais à ça. J'avais la vision du Théâtre du Soleil qui utilise beaucoup des draps en soie pour faire les vagues. Donc, je me suis demandé, mais du coup, les gens iront voir le spectacle pour savoir ça. Donc tu as parlé des ingénieuses pour la scénographie. Je voulais savoir si... parce que vous êtes quand même une troupe de beaucoup de personnes. Vous êtes 70 personnes, je crois.
C'est ça, on est une troupe de 70 à 80 personnes, ça dépend comment on compte. Sur scène, du coup, il y aura 30 personnes entre qui font du chant, de la danse, ou que de la danse, ou que du chant. Enfin voilà, ça dépend comment on compte encore. Il y a un orchestre symphonique slash rock de 22 personnes. Et en coulisses, il y a pareil, une 10-15 de personnes, soit qui font les petites mains pour changer les décors, faire le maquillage, faire la technique, tout ça derrière, mais aussi qui ont participé à écrire le spectacle, parce que ce n'est pas forcément les mêmes qui ont écrit le spectacle, qui jouent dedans, etc.
70.
Ouais, c'est 70 jeunes professionnels. On fait,
ah, donc il y a quand même des professionnels, c'est pas pardon, que professionnels.
Ouais, si, pardon. Jeunes professionnels, c'est-à-dire que le jour où on a nos métiers, on est.
Ah oui.
Il y en a très peu qui sont professionnels du monde du spectacle. Il y a un ou deux musiciens professionnels, mais c'est à peu près tout. Et le soir, on est auteur, musicien, danseur, danseuse de comédie musicale.
C'est super, vraiment. Et, je suis très fan.
Et en plateau, comment est-ce qu'on est chef d'orchestre de 70 personnes ?
Alors, c'est compliqué, mais du coup, on ne fait pas ça tout seul. Dans les 70 personnes, du coup, voilà, y a le chef d'orchestre, il y a la metteur en scène. Enfin, voilà, y a différentes équipes qui travaillent soit indépendamment au début, puis ensuite, on met les pièces ensemble. C'est toujours un petit peu rock'n'roll, c'est mis en place, mais la première fois, c'est un peu compliqué, la deuxième fois, c'est un peu plus simple, etc. Ça demande quand même pas mal de discipline à tout le monde, y compris aux comédiens et comédiennes, aux musiciens et musiciennes qui jouent dedans. Mais ça se passe bien, et on avance. J'ai répondu à ta question.
Ouais. Oui, c'était même plus au point de vue humain. Est-ce que ça apporte l'écriture au plateau ou quoi, mais...
Ouais, du coup,
je ne sais pas si vous écrivez au plateau.
Non, on... En fait, ça prend du temps d'écrire au plateau. C'est pas forcément l'objectif. Il y a de temps en temps des petites réécritures au plateau parce qu'il y a besoin, parce qu'on n'avait pas forcément prévu ça dans nos chambres quand on écrivait ça. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver avec... Parce que du coup, le spectacle, on a mis un an pour l'écrire. Et là, une fois qu'on l'a écrit, il y a 6 mois de répétition. Donc c'est pas imperméable parce qu'en voyant les répétitions, on s'est dit non, ça marche pas, il faut qu'on le change un petit peu. D'où l'écriture de plateau, c'est ça que tu mentionnes. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir réfléchi le spectacle à l'avance. Et du coup, par exemple, la première répétition, en fait, tous ensemble, c'était lecture du spectacle. Comme ça, tout le monde sait, musicien, comédien, danseuse, où est-ce qu'on va, le numéro qu'on va travailler tel jour, bah, en fait, c'est la 5e scène du spectacle qui enchaîne avec la scène 6. Et c'est à peu près ça qui se passe. Enfin bref, tout comme ça, tout le monde arrive avec l'histoire, on sait où on va, on sait comment ça se termine, on sait qui meurt, on sait qui meurt pas, on sait qui s'embrasse. Enfin voilà, c'est un peu bête, mais ça permet de mettre des visages sur qui fait quoi.
Oui, puis c'est sûr, quand il y a 70 personnes ou plus qui sont tout autour, enfin 30 personnes sur scène, il faut que ce soit organisé, parce que sinon, je pense que ça va dans tous les... Ça part en cacahuète. Mais du coup, je voulais savoir si vous alliez faire des représentations en Bretagne.
Alors pour l'instant, ce n'est pas prévu. On essaye d'envoyer des perches au Conseil régional de Bretagne, mais pour l'instant, ça n'a pas encore pris.
D'accord.
Non, pour l'instant, on fait un spectacle un peu one-shot. Déjà, on le joue 3 fois, on est déjà super content.
Oui.
Du coup, on joue les vendredis 21 février, samedi 22 février et dimanche 23 février au Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison. Pas au cœur de Paris, mais c'est à une demi-heure de Châtelet en RER.
Oui, c'est pas très loin.
C'est pas très loin.
Vous pouvez vous déplacer, chers auditeurs.
Faites l'effort, à l'Île-de-France, c'est grand.
Je voulais savoir si vous aviez un public visé particulier.
Alors, c'est beaucoup les anciens des troupes affiliées à cette association, parce que du coup, elle provient d'une espèce d'héritage de plusieurs associations qui ont contribué. Je sais pas très clair ce que je dis, pardon. Il y a un réseau d'associations parisiennes, de comédie musicale, amateurs. Donc c'est ça qu'on vise, les familles et les proches des personnes qui sont dans le spectacle. C'est aussi pour ça qu'on est beaucoup. Là, pour ce spectacle-là, les Bretons et les Bretonnes. Mais voilà, on n'a pas de spectateurs type. C'est un spectacle tout public. Voilà, donc on est ouvert à tout le monde. On a aussi harcelé, je pense, nos collègues de travail pour qu'ils viennent. On a fait ça pendant les vacances scolaires, en espérant qu'il y ait du monde.
Très très bien. Ben, merci beaucoup Arthur d'être venu. Où est-ce qu'on peut avoir les billets?
C'est sur Eloasso. Et sinon, il y a des liens sur Instagram et sur Facebook. Les Odyssées musicales, Is la ville engloutie.
Super, merci. Donc, merci je redonne beaucoup. La parole.
Merci beaucoup Arthur Blampin donc, de nous avoir parlé de la comédie musicale Is la ville engloutie. J'ai envie de dire à titre personnel, vive les Bretons et la Bretagne, parce que bon, j'avoue, c'est aussi un peu mes origines quelque part. Et bravo pour le thème de cette comédie musicale qui n'est pas si dystopique que ça et effectivement assez actuelle sur l'écologie. On repart en musique, on écoute Blame You de Odile.
Gorgeous, gorgeous girl, but you ain't happy. Channel all them words of affirmation tonight. Cause someone somewhere's hoping you ain't happy. And that's me. Cause girl, you made me happier. Not only did you go, but you left me with no purpose. They told me not to waste my time. I was certain you were worth the try. You became the best and worst part of my life. Yeah, 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 yeah. And if I don't blame it on you tonight, I will down the road somehow. Blame it for leaving me a lonely road to nowhere. Blame it on you tonight. I will down the road somehow. Blame it for leading me a lonely road to nowhere. Knowing well, you was an option, never crossed my mind. When I had a target of your heart in sight, even in darkness you still saw my light. Or was it only a matter of time? Need I remind you? Told me you'd try for me.
C'était Blame You de Odile sur Radio Campus Paris. Et puis, il nous reste une chronique pour clôturer cette matinale.
La matinale de 19h.
Une chronique par Fabien qui est en plateau avec moi. Une chronique sur la Saint-Valentin, je crois.
Oui, tout à fait. Donc la Saint-Valentin, c'est vendredi. Et donc, je vous ai trouvé plein de petites choses sympas à faire. Comme par exemple, donner le prénom de votre ex à un cafard pour la modique somme de 2,35€. Et c'est, si, ce n'est pas une blague, c'est un zoo qui propose de donner donc le nom de votre ex à un cafard. Le cafard le conservera pendant au moins 6 mois, parce que c'est la durée de vie moyenne d'un cafard. Au-delà de faire sourire, le but c'est quand même de se servir de tous les fonds récoltés pour s'assurer du bien-être des animaux du zoo cet hiver, mais également de financer des projets du centre tout au long de l'année. Une idée à la fois drôle et insolite pour tous les pensionnaires du centre. Encore mieux que des fleurs, vous recevrez en cadeau un certificat vierge stipulant que vous avez bel et bien nommé un cafard. Vous pourrez le personnaliser comme vous voulez, l'encadrer précieusement au-dessus de votre bureau ou l'envoyer à des amis ou laisser libre cours à votre imagination. Pour en savoir plus et vous aussi nommer votre petit cafard, il suffit d'aller sur le site donc du zoo, c'est Hemsley Conservation Centre, hemsley.com/valentinecockroach. Et puis, donc, la 61e fête des amoureux de la Saint-Valentin vous réserve de belles surprises. Saint-Valentin, c'est le village des amoureux qui existe vraiment et qui est blotti au cœur des champagnes bois chauds dans le département de l'Indre, en région Centre-Val-de-Loire. Vous pouvez vous inscrire au déjeuner du 14, du vendredi 14, et réserver pour la remise d'un diplôme d'amour avec Monsieur le maire. Il y a une boutique de Saint-Valentin qui est dans la maison des amoureux. Évidemment, il y a aussi un jardin des amoureux dont les jardiniers sont des couples venus du monde entier, des collectivités et des départements français. En offrant un arbre au parc, ils accréditent Saint-Valentin dans son rôle de jardin de tous les amoureux de France et d'ailleurs. Sur 4 hectares bordés d'air et de jeu, les amoureux, mais aussi les amis de la nature, peuvent se promener parmi les essences variées et le gazouillis des oiseaux attendris. Dans ce jardin, il y a le kiosque de Saint-Valentin qui a été érigé et c'est un lieu de romantisme prisé des couples, jeunes ou vieux, et une incontournable scène de photographie. Plutôt que de graver leur nom sur les troncs d'arbres, les amoureux peuvent acheter une feuille de métal qu'ils font graver et qu'ils accrochent aux branches de l'arbre à cœur. C'est une jolie façon de laisser là le témoignage de leurs sentiments partagés. Ils peuvent aussi accrocher des rubans de tissu imprimé, s'ils le veulent, sur l'arbre à vœux. Depuis sa création, les participants à la fête de la Saint-Valentin, mais aussi tous les visiteurs du village, enrichissent et profitent de ce lieu original et romantique. Et donc, pour y aller, donc vous avez le jardin des amoureux, la boutique des souvenirs, l'agence postale communale, le kiosque des amoureux, l'arbre à vœux. Et pour y aller, vous pouvez aller sur le site villagesaintvalentin.com.
Merci Fabien. Et je suis obligée de le rappeler, la Saint-Valentin, c'est aussi une fête commerciale. Est-ce qu'on est obligé de dépenser pour s'aimer? Je ne sais pas. Ce soir, c'était Joey à la réalisation, en régie. Merci Joey. Maïwenn à la coordination, Hélène à l'interview, Sam au Zoom, Francesca à la chronique, Fabien à la chronique et au Flash Info. Merci beaucoup. On se retrouve très vite sur Radio Campus Paris.